On est là jusqu'à 21h, jusqu'à Bonsoir les sportifs, animé ce soir par Evelyne Audette, qui sera aux commandes jusqu'à minuit. Alors, au cours de la prochaine heure, entre autres choses, Martin Laperrière, qui a été nommé entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval, sera avec nous. On va parler de football avec David Foucault des Alouettes, les Alouettes qui se préparent à entreprendre leur saison le 14 août prochain à Edmonton. Et on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie avec Philippe Lagut un peu plus tard à l'émission, en fait à la fin de l'émission. Mais là, on va reparler encore une fois des Jeux olympiques avec un gars que je connais bien par le nom et je connais bien parce qu'il vient du même coin de pays que moi, Jean-Luc Brassard, né à Valleyfield, mais qui a grandi à Grande-Île. Salut Jean-Luc!
Allô Yannick!
Ça va bien?
Ça va très bien, merci toi-même.
Ben oui, ça va très très bien. Jean-Luc, parmi les sujets qu'on va aborder ce soir, la sécurité. Je regarde quand tu as gagné ta médaille d'or à l'Île-la-Mer en 1994. Si tu fais une comparaison, par exemple, avec la sécurité qu'il y avait à l'époque et ce qu'il peut avoir aujourd'hui à Tokyo, ça doit être complètement différent.
C'est deux mondes complètement différents. Puis il y a vraiment eu une transition entre les Jeux de Nagano en 1998 et évidemment ceux de Salt Lake City qui suivaient en fait un an après les attentats de New York du World Trade Center. Alors on était évidemment, les Américains étaient sur un pied d'alerte et la sécurité a passé vraiment d'un niveau quand même important à presque en étant séquestré dans une ville blindée. Là. L'endroit le plus sécuritaire au monde est probablement Tokyo en ce moment. Une grande partie du budget d'ailleurs qui est alloué à l'organisation des Jeux olympiques là, se fait pour le budget de sécurité. Pour les Jeux d'hiver, on parle de quelque chose comme $1 milliard. Pour les Jeux d'été, c'est davantage parce qu'il y a plus de sites de compétition qui sont dans des endroits différents. Mais si à mon époque, au milieu des années 90, on présentait notre accréditation, puis bon, il y avait peut-être un petit truc trois couleurs qu'on pouvait, un allogramme ou quelque chose comme ça, là, qu'on pouvait difficilement falsifier. Ben maintenant, c'est une toute autre paire de manches. Et pour vous donner un exemple, d'ailleurs, pour les athlètes, en fait, si vous n'aimez pas passer les détecteurs de métal aux aéroports lorsque vous voyagez, ben entamez pas une carrière olympique. Parce que à tous les jours, peu importe le nombre de fois que vous quittez le village olympique, vous allez passer par un événement de sécurité. Les véhicules qui servent à transporter les athlètes, puisque les athlètes ne vont pas en taxi ou ne vont pas en... Bon, c'est des véhicules, des petites vanettes qui sont monitorés par satellite. Donc, ils doivent exactement suivre le même chemin pour se rendre au site de compétition. S'il y a le moindrement une bifurcation quelconque, la sécurité apparaît de nulle part. Un exemple, à Salt Lake City, une petite vanne était rentrée. En fait, il y avait une voiture qui était rentrée en collision avec une petite vanne d'athlètes en suite de circulation, chaussée glissante, et puis il y avait un petit tamponnage. Rien de significatif, mais bon. C'est au milieu d'un champ. En moins d'une minute et demie, les hélicoptères d'armée étaient posés à côté dans le champ pour sécuriser. Un périmètre de sécurité avait été installé, tout simplement parce que le récepteur satellite avait vu qu'il y avait une bifurcation dans le trajet de la petite vanne. Et ce qu'ils font, c'est que lorsque les athlètes embarquent dans la vanne, à l'intérieur du périmètre du village olympique, à ce moment-là, on va apposer un sceau scellé sur les portes, sur toutes les portes du véhicule. Une espèce de on pourrait dire un plaster de plastique codé qui va être apposé sur toutes les portes pour évidemment prouver qu'aucune porte va être ouverte en chemin, de manière à ce que quelqu'un ou quelque chose puisse y être déposé dans la voiture. Et lorsque vous arrivez au village olympique, ou bien non, à l'endroit de votre compétition, au lieu de compétition, vous allez passer dans une tente. Le véhicule va passer dans une tente au complet. Et là, ce sont les militaires qui vont fouiller avec des miroirs sous le véhicule, sur les côtés, vont évidemment regarder si le sceau de sécurité a été brisé ou non. Et par la suite, une fois que vous arrivez sur le site olympique, pardon, mais là, à ce moment, vous allez encore passer la sécurité. Les détecteurs de métal et compagnie vont vous demander d'ouvrir vos sacs. Si vous êtes un athlète qui a amené une caméra 35 mm, ou une caméra du genre, mais vous n'êtes pas mandaté parce que vous n'êtes pas un photographe officiel qui a été accrédité pour avoir une caméra 35 mm. Même si vous êtes un athlète, on va vous demander de laisser la caméra en question à l'entrée pour ne pas que vous preniez des photos qui pourraient être... parce que vous n'avez pas le droit, finalement. Vous n'êtes pas un photographe, vous n'avez pas le droit de prendre ce type de photos-là. Alors, c'est vraiment...
Mais est-ce que ça devient lourd à la longue pour les athlètes, Jean-Luc?
C'est... ça peut devenir, il faut se mettre dans un mindset qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Parce que là, si on commence à s'en faire avec ça, on détourne notre bohémie, notre bonne humeur, et puis on commence à s'en faire avec des riens. Et on veut surtout pas arriver avec quelque chose qui nous tracasse sur une piste d'athlétisme ou sur un lieu de compétition olympique. On veut vraiment être, faut être zen, il faut se faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y avait aussi au jeu de Sotchi, où j'étais chef de mission, il y a à côté de Sotchi, dans une petite république en Géorgie, il y avait un petit groupe terroriste qui était là. On avait peur, mais évidemment, il était sous-équipé devant la puissance russe. Et l'ironie à Sotchi, c'est qu'on avait mis dans les montagnes des petits, ce qu'on pourrait appeler des petits abris tempo là, pour deux militaires. Et il y en avait environ à tous les 100 mètres dans le bois, à côté des routes. Et le problème, c'est qu'ils avaient mis blanc pour ne pas qu'on les voit dans la neige. Mais en fait, il n'y avait plus de neige parce que c'était tellement chaud. Ça fait que c'était brun et on voyait facilement les abris tempo partout. Puis un jour, en partant de la base des épreuves de ski alpin, je voulais me rendre au ski acrobatique sans nécessairement avoir à réembarquer dans une de ces vannes scellées où évidemment l'air est peut-être pas le plus pur qu'on peut respirer là, et me faire la longue route de retourner au village olympique, d'attendre le prochain transport pour ensuite repartir à quelques centaines de mètres de la base de ski alpin pour me retrouver sur le site de ski acrobatique. Alors, par une belle journée de printemps, par une 10 degrés là-bas en montagne, j'ai simplement décidé de marcher. Et quand j'arrivais aux côtés je marchais sur la rue, j'ai même pas tenté d'aller dans le bois parce que je me sentais compte que ça n'avait aucun bon sens. Et quand je passais près des petits abris tempo, ben, je voyais littéralement là, des yeux des militaires qu'on voyait à travers les petites fenêtres qui étaient à cet effet-là. Et là, tout de suite, j'entendais certaines communications et voyant qu'il y avait quelque chose qui était, bon, j'avais peut-être pas pris la meilleure décision de faire ça, j'ai appelé ma personne ressource dans l'équipe canadienne pour leur dire qu'est-ce que je faisais, que je marchais le long de la rue et que visiblement les militaires se demandaient qui j'étais malgré l'habit officiel et tout ça. Et rapidement, pendant la communication téléphonique, la communication a coupé, un message russe enregistré s'est fait entendre, évidemment je comprends absolument rien, la communication a coupé. J'ai essayé de rappeler quelques secondes après et là ça a été encore plus explicite, le même message à mon avis se remet à tourner et on coupe la communication immédiatement après. Et après, ben j'ai demandé au service secret, il y a un membre du service secret canadien qui y était, et j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Puis je trouve ça étrange quand même que la communication ait coupé alors que je parlais à ma délégation. Et on m'a dit, ben il y a certaines bombes qui explosent quand on pitonne des codes téléphoniques, quelques chiffres en ligne, et les Russes, pour éviter tout problème quelconque, pour éviter que je déclenche une bombe à distance, ben empêchait tout réseau téléphonique qui se trouvait dans une zone qui pouvait être suspect. Et on m'a envoyé un Jeep me suivre alors que je marchais. On m'a pas offert d'embarquer, on m'a suivi au pas de marche tout simplement pour m'escorter jusqu'en lieu sûr là, pour avoir mon accréditation, pour être sûr que j'étais... Et par la suite, bon, on m'a dit « Fais plus ça. On veut plus que tu refasses ça. Faut que tu suives le pattern. T'es pas là pour faire de la visite. T'es là pour être avec les athlètes, et c'est la même chose avec les athlètes également. Ils se doivent d'être uniquement consacrés à leur performance, et ça finit là. »
Et on a l'impression, Jean-Luc, que plus les années passent, plus les Jeux passent également, les sommes investies en sécurité par les comités organisateurs sont de plus en plus importants. Donc, à Tokyo, cette année, ça doit être encore beaucoup plus grand comme somme investie.
J'imagine, parce qu'en plus, on veut contingenter les athlètes encore plus qu'à l'habitude. Seulement, quand les athlètes ont terminé leurs épreuves, ben, ils ont certainement de la liberté. L'équipe canadienne souvent les amène à des hôtels à Tokyo, on les sort du village. Comme ça aussi, ça leur permet de fêter s'ils veulent. Tu sais, c'est un peu comme... Des universitaires qui, après 4 ans d'études, ont leur diplôme, puis bon, ils ont le goût de fêter, ils ont le goût de sortir. Même chose avec les athlètes, sauf que on veut pas les avoir dans le village parce qu'on veut pas qu'ils réveillent les autres athlètes, donc ils les envoient dans des hôtels, ils se promènent un peu partout dans la ville, vont voir d'autres épreuves, c'est bien le fun, la vie est belle. Mais cette fois-ci, on doit les suivre à la lettre, évidemment, pour des raisons de virus. Alors, on les escorte constamment, et ces escortes-là, mais ça demande évidemment de la main-d'œuvre, ça demande du monde, ça demande des rencontres, ça demande énormément de planification. Heureusement que les Japonais sont reconnus pour leur sens de l'organisation, mais ça prend quand même beaucoup de planification et beaucoup de personnel pour suivre tout ce monde-là également. Et aux aéroports, filtrer les quelques 70 000 personnes qui sont entrées en vue des Jeux olympiques, que ce soit des techniciens, athlètes, accompagnateurs, sponsors, peu importe, là, il y a des permissions pour tout le monde finalement. Alors, ça doit être des sommes qui sont vraiment colossales. Et aussi, ben, en plus d'héberger les athlètes et les accompagnateurs et tout le monde, il faut les héberger, ces membres de la sécurité-là. À Vancouver, en 2010, on avait analysé 2 paquebots qui étaient ancrés au port et qui servaient de... Ben, c'était des paquebots qui servaient de logis pour le département de la sécurité. Avec, évidemment, parce que c'est jour et nuit, on ne peut pas abandonner la nuit un site à quelconque tentative d'attaque possible. Et il y avait l'ironie parlant d'attaque à Salt Lake City. Ça, c'était vraiment du jamais vu. On avait ce qu'on appelle traditionnellement des snipers, donc des tireurs embusqués, qui étaient dans la forêt, aux côtés de la pente de bosse. Et notre petit jeu à chaque jour entre athlètes, c'était d'essayer de les spotter, de savoir où ils étaient. Ils étaient merveilleusement bien camouflés. C'était impressionnant, là. C'était une discipline en soi pour eux de se positionner. Mais ça donne une idée de l'envergure, d'assurer la sécurité. Parce qu'évidemment, il y a tellement de journalistes sur place. Et on l'a vu au jeu d'Atlanta en 96 avec l'attentat qui a eu la bombe qui a explosé sur la place du centenaire. On ne veut pas que soudainement le focus des jeux soit détourné pour un acte répréhensible qui ferait craindre énormément de sécurité puis qui donnerait mauvaise image au pays. Puis bon, c'est la raison pour laquelle on met tant d'accent là-dessus.
En principe, tout le monde est en sécurité en ce moment du côté de Tokyo au Japon et c'est pour une bonne cause parce que la planète entière est là. On veut, comme tu viens de le mentionner, qu'il n'y arrive pas d'incidents malheureux. Jean-Luc Brassard, très intéressant. Merci beaucoup de tes propos et tes propos très éclairants et au plaisir de se reparler cette semaine.
Certainement, Yannick. Bonne émission.
Salut Jean-Luc, merci beaucoup. Alors voilà, c'était Jean-Luc Brassard. Vous voyez les sommes investies, incroyables. Tu peux pas te promener. On met des cils après ta voiture. Les athlètes, les membres des délégations sont là. Puis ils peuvent savoir quand tu arrives à destination si vraiment il y a une des portes qui a été ouverte durant le trajet. Wow! On niaise pas avec ça. On niaise pas avec ça aux Olympiques. OK, on s'arrête pour la pause. À venir, entre autres, on va parler. Oh, y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses. Martin Laperrière, entraîneur adjoint avec le Rocket. Philippe Lagut, le Grand Prix de Hongrie. Et au retour de la pause, David Foucault des Alouettes de Montréal qui disputent leur premier match le 14 août à Edmonton.